ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du lundi 29 février 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Bienvenue à Ça vaut le détour. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis dès midi. Édition du 29 février 2016. On est choyé. L'année bissextile nous offre une journée supplémentaire et c'est un lundi. Il faut en profiter parce que vous ne pourrez pas entendre une autre émission de Ça vaut le détour le 29 février avant l'année 2020. Donc, on va garder ça précieusement aujourd'hui. Je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le mot-clic CVLD et @canal_M. Vous pouvez nous soumettre des sujets qui vous touchent ou réagir aux propos de nos invités. Aujourd'hui, on découvre les services du regroupement soutien aux aidants Brome-Missisquoi, dont la maison Gilles-Carl est l'un des 5 points de service et sans doute le plus connu de la population. On s'entretient avec Verle Belgeard, directrice générale, pour parler des programmes, notamment d'hébergement de courte durée. C'est la chronique mensuelle Altergo où on reçoit Elsa Lavigne, directrice du projet Choisir de gagner, pour nous parler des camps de recrues Hydro-Québec. L'organisme effectue une tournée québécoise et sera en Abitibi-Témiscamingue les 6 et 7 mars prochains. 29 février, dernière journée pour cotiser à ses REER. Cette année, on a même une journée supplémentaire. Pourquoi ne pas en profiter? En cette période d'impôt, on fait le point sur ce qu'il faut savoir pour profiter de tous les programmes et avantages fiscaux auxquels vous avez droit si vous êtes une personne en situation de handicap ou si vous êtes le parent d'un enfant handicapé. Je vous conseille d'avoir avec vous papier et crayon pour prendre quelques notes car la première moitié de notre émission est consacrée à la planification financière et à la déclaration d'impôts. Pour nous aider à y voir plus clair, je reçois en studio Jonathan Vanda, le président directeur général chez Finhandicap Services Fiscaux. Il est aussi conseiller en sécurité financière, entre autres un des chapeaux qu'il porte. Bonjour, M. Vandal.
Bonjour, Maxime.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on sait, on est dans cette période où on reçoit des lettres de T4, des divers papiers dont on va avoir besoin pour remplir nos déclarations au courant du prochain mois. Ça peut parfois être une bête noire pour certaines personnes, plusieurs programmes à connaître, plusieurs conditions à connaître. Avant de plonger dans les chiffres, les programmes, les numéros de formulaire, j'aimerais d'abord qu'on parle de votre spécialité, de ce qui vous a amené à travailler chez Finhandicap Services Fiscaux.
Bien, c'est assez simple, en fait. J'ai fait de nombreuses recherches pour un membre de ma famille. J'ai un petit frère qui est trisomique. Et à certains moments, lorsque je suis devenu professionnel, je me suis reposé des questions quant à son passé, quant à son présent et quant à son avenir. Et c'est ça le lien qui fait que j'ai décidé de laisser une pratique professionnelle et de me joindre à la grande famille de Finhandicap, on va y revenir, et d'ajouter les services de Finhandicap services fiscaux, donc plus proche de la fiscalité, parce qu'on voyait bien qu'il y avait bien des gens qui en avaient besoin de cette aide-là.
Et d'abord, justement, qu'est-ce qui nous rend admissibles au programme dont on va parler plus en détail dans cette première moitié d'émission? Qu'est-ce qui rend la situation d'handicap admissible, la nôtre ou celle de notre enfant?
Ça, c'est assez complet, sans être trop complexe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on est reconnu à un endroit qu'on l'est à d'autres. Donc, il ne faut pas présumer que parce que je reçois telle prestation, bien, j'ai tout ce que j'ai droit. Mm-hmm. Les différentes lois, les différents ministères, surtout lorsqu'on vit au Québec, on a le fédéral et le provincial, bien, ça va certainement pas se communiquer de façon automatique. Donc, ça, c'est un premier principe de base. Maintenant, à quel niveau on peut être reconnu? On entend les mots handicap, on entend les mots invalide, on entend les mots contrainte sévère à l'emploi. Ça, c'est toutes des définitions qui sont différentes et qui peuvent même être différentes avec le même mot si on ne parle pas avec le même intervenant, le même ministère. Mm-hmm. Donc, c'est important de se poser la question. Donc, si on revient vers la fiscalité, bien, le classique, c'est le crédit d'impôt pour personnes handicapées, hein, communément appelé le CIPH. C'est au fédéral. Okay. On en parle beaucoup, notamment parce que, puis je crois que ça va être le sujet de notre deuxième partie, le régime enregistré d'épargne invalidité, c'est son critère principal, mais c'est aussi le critère pour être admissible à certains crédits et à certaines prestations au niveau fédéral. Donc, comment on se fait reconnaître à ce niveau-là? Mm-hmm. Bien, c'est un formulaire qui commence à être assez bien connu, mais il faut continuer à en parler, le T2201, au long, si vous le cherchez dans Google, par exemple, c'est le certificat pour personnes handicapées, le certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, T2201, le fameux formulaire qui doit être signé par un médecin.
D'accord. Okay?
Donc, c'est pas parce qu'on a déjà un rapport de médecin, quoi que ce soit, qu'on a simplement l'envoyé. À ce niveau-là, le gouvernement s'attend vraiment à avoir ce formulaire-là.
Et justement, bon, si on a ce formulaire-là en main, on le joint à la déclaration, qu'est-ce qu'il nous permet d'avoir, à quoi il nous permet d'avoir accès comme
bon,
programme?
Justement, c'est là que même si on l'avait, si on allait le chercher aujourd'hui, 29 février, bien, on est déjà trop tard pour l'année 2015. Hein, puisque là, on est en 2016, on va faire notre déclaration d'impôt de l'année dernière, hein, 2015. Au niveau fédéral, bien, il faut commencer par envoyer le certificat pour recevoir une attestation, pour dire oui, on vous reconnaît maintenant. Mm. Okay? Mais on ne s'inquiète pas de ça parce que de toute façon, on est capable d'aller chercher les crédits d'impôt de façon rétroactive. OK, donc on a 10 ans pour aller chercher le passé. Donc ça, c'est pas trop inquiétant. Tandis que si on va au Québec, par exemple, on a un autre certificat qui s'appelle le crédit pour déficience grave et prolongée. C'est à toute fin pratique la même chose. Et d'ailleurs, depuis 3 ou 4 ans, le provincial accepte le formulaire fédéral dans la très grande majorité des cas parce qu'ils ont des critères qui sont identiques dans la justement très grande majorité des cas. OK, donc ça, c'est un niveau. Donc là, on a, au niveau fédéral, ça nous donne accès autant au niveau de la déclaration d'impôt qu'au niveau des prestations. Donc, on connaît la prestation fiscale canadienne pour enfants. Là. Des fois, on appelle ça une allocation familiale. Là. Bien, dans l'allocation familiale, il y a aussi une prestation pour enfants handicapés. Donc, qui vient s'ajouter. Donc, ça, c'est important de garder ça en tête. On n'est même pas dans la déclaration d'impôt, si on est vraiment juste dans les prestations. Et au Québec, mais par contre, c'est même pas lié comme ça. Là, il faut aller voir au niveau du supplément aux enfants. Bien, c'est la Régie des rentes, là, la RRQ, qui gère, c'est aussi un crédit d'impôt, là, mais qui gère ce crédit d'impôt-là, le supplément aux enfants. Bien, il y a aussi le soutien aux enfants, je m'excuse, il y a un supplément pour enfants handicapés.
D'accord, donc ça va être dans le programme de soutien aux enfants général.
C'est un formulaire, encore une fois, particulier à eux, parce que c'est même pas les mêmes définitions. Donc là, c'est là. Donc, retenons que le plus courant, c'est le CIPH, le T2201 qui donne droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Et de l'autre côté, au niveau du Québec, bon, on peut probablement utiliser le même rapport dans la plupart des cas, mais pour ce qui est du supplément aux enfants, qui est géré par la RRQ, on doit avoir un autre formulaire. OK? Donc ça, c'est l'admissibilité.
Il y a justement des crédits d'impôt pour personnes handicapées, mais il y a différentes situations, en fait, pour les personnes. Donc, on parle aussi de transfert, parfois, à une personne vivant seule, avec un conjoint, avec un proche. Comment est-ce qu'on peut bien situer sa condition et celle de nos proches?
Parfait. Donc, ce qu'on retient, c'est que quand on est dans la même maison, bien, en général, ça devrait être assez facile de transférer ça entre les personnes. OK? Donc, au niveau fédéral, on a la ligne 315, qui est le crédit d'impôt lui-même. Pour faire un chiffron, là, il donne à peu près 1 000 dans nos poches. OK? À ça peut s'ajouter, quand on a moins de 18 ans pour notre enfant, là, un supplément d'environ 500 $ OK? Donc, ça, c'est miroir et c'est la même chose, même si on est adulte, c'est 1 000 $ à la base, mais au lieu d'être pour un enfant de moins de 18 ans, bien là, c'est le crédit d'aidant naturel. Qui est exactement le même montant et qui est l'autre 500 $ OK, donc ça, si on garde ça simple, quand on vit sous le même toit et qu'on paie pour la personne handicapée, on va dire, on paie son logement, hein, dans le fond, on l'accueille.
On subvient à ses besoins.
On subvient à ses besoins, exactement. bien là, on va réussir à transférer facilement. Si on ne reste pas dans la même demeure, bien là, ça se complexifie et c'est là qu'il faut vraiment subvenir aux besoins aussi. Donc, peut-être payer pour le logement, payer pour de la nourriture, des vêtements, des choses comme ça. Et là, c'est le temps peut-être de consulter parce que là, ça commence à se complexifier. Donc, dans la même maison, en général, on devrait être capable d'aller chercher.
Et justement, bon, ce serait dans le cas à ce moment-là où les deux personnes vivent dans des appartements séparés, mais où est-ce que la majeure partie des besoins est comblée par une personne responsable.
Exactement.
Et,
OK. Au Québec, ouais. Par contre, bien là, c'est pas transférable à part au conjoint. OK. Donc, au Québec, là, c'est vraiment, même pour un enfant, il y en a un crédit d'impôt, mais il n'est pas transférable aux parents.
Mm-hmm.
Donc, gardons juste en tête qu'au Québec, il n'y a pas de crédit dans la déclaration d'impôt pour un enfant mineur. Au fédéral, oui.
C'est déjà des nuances importantes à amener. On voit que ces deux systèmes qui, même s'ils ont les mêmes critères ou des critères similaires, fonctionnent de manière différente. Justement, pour les déductions et les crédits auxquels on a droit lorsqu'on est parent d'un enfant handicapé, qu'est-ce qu'on doit tenir compte? Est-ce que même notre situation de parent a un impact, par exemple, notre salaire, le fait si on est monoparental ou si on est en couple? Est-ce que ce sont aussi des choses dont il faut tenir compte?
Oui, tout à fait. Gardons en tête que là, depuis tantôt, tout ce qu'on a parlé, c'est des crédits d'impôt, je vais les appeler gratuits. Okay? Ce que je veux dire, c'est que c'est des crédits d'impôt qui ne demandent pas à ce qu'on ait fait une dépense. C'est seulement le statut qui permet de venir réduire l'impôt qu'on aurait. Il y a toute une gamme, et d'ailleurs, pour citer peut-être un bon document qui, des fois, vulgarise bien, c'est le document de l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, qui permet de bien voir les différents crédits. Ne pensons que simplement aux frais de garde d'enfants.
Mm-hmm.
Quand on a un enfant handicapé, bien, c'est différent. Les seuils ou les maximums. La même chose pour les activités artistiques ou les activités physiques d'un enfant. Il y a un crédit d'impôt depuis quelques années. Les seuils sont pas pareils. Dès qu'on a le droit au fameux crédit d'impôt pour personnes handicapées ou son pendant provincial, ben ça change les seuils, ça change les maximums, ça change certaines périodes. Le RAP, hein, qui est assez connu, le régime d'accès à la propriété, pour s'acheter une première maison, ben il y a des caractéristiques particulières lorsqu'on a un handicap. Donc là, il y en a une foule, il y en a au moins une quarantaine de crédits qui ont un impact. Ça, c'est pas de ce dont je parlais aujourd'hui. Donc,
non,
on parle
ça.
Vraiment des crédits, entre guillemets, gratuits. Il me resterait peut-être un gros crédit gratuit à parler qui est super important, c'est au Québec. Donc, on a dit à date qu'au Québec, le crédit pour déficience grave est prolongé, l'équivalent, était pas transférable. Par contre, quand on a un enfant qui devient adulte, OK, et qu'on l'a toujours à la maison, bien, une des choses qui devient importante, c'est le crédit pour aidant naturel. Pourquoi il est si important, c'est qu'au Québec, ce crédit-là est remboursable. Je fais une distinction rapide entre un crédit remboursable et non remboursable. C'est qu'un crédit non remboursable, tous les autres crédits dont j'ai parlé à date étaient des crédits non remboursables. Si je ne paie pas d'impôts, ils ne vont rien me donner. Payer de l'impôt, mm-hmm. ça ne veut pas dire de faire un chèque là, dans quelques semaines. Là. Payer de l'impôt, là, ça veut dire d'avoir un revenu qui est d'au moins, je vous dirais, ça dépend des situations, mais dans le coin d'une vingtaine de mille. Sinon, avant ça, on ne paie pas du tout d'impôt. Et donc, un crédit non remboursable, ça vient réduire l'impôt qui existe dans notre déclaration d'impôt. Et là, ça peut nous donner droit à un remboursement. Un crédit d'aidant naturel au Québec, bien, c'est un bon montant d'une part parce qu'il est assez généreux. Pour l'année 2015, je l'ai pris en note, c'est 1154 $ et c'est un chèque dans vos poches. Même si vous faites zéro revenu, si vous êtes l'aidant naturel de quelqu'un, vous accueillez quelqu'un chez vous, ça c'est un critère important, il faut accueillir la personne chez soi, bien là, vous avez droit à ça. Malheureusement, pas les conjoints. Je vous ai entendu dire tantôt la maison Gilles-Carle. Les conjoints ont été reconnus jusqu'à un certain point dans l'affaire avec Chloé Sainte-Marie et mm-hmm. Gilles-Carle parce qu'avant, et de mémoire, c'est avant 2011, il n'y avait aucune reconnaissance du conjoint. Hein. Il fallait s'occuper de son conjoint, mais ça ne donnait pas de crédit d'impôt pour aidant naturel. Là. On était son aidant, mais c'était naturel de s'en occuper. Hein?
Oui, c'est de là que vient pas mal l'appellation.
C'est ça.
Mais effectivement, il n'y avait pas de soutien pour ces
personnes-là. Là, il y en a un petit, mais il faut que notre conjoint ait plus de 70 ans et qu'il soit incapable de vivre seul. Donc, honnêtement, la porte n'est pas grandement ouverte et loin de là. Là. Mais
non.
Bon, au moins, sachez qu'il y a quelque chose. Ça donne accès à un crédit qui est un peu réduit, mais quand même, qui est de 925 $ en 2015.
Est-ce qu'il y a d'autres crédits à connaître?
Mais je vous dirais, dans les crédits gratuits, pas vraiment. Donc, je fais un rappel rapide. 315 qui est le crédit pour personnes handicapées, qui peut être 318 ou 316, je m'excuse. 315, c'est l'aide naturelle. Ça, c'est au fédéral. OK, c'est le crédit dont on a parlé. Et au provincial, c'est la ligne 376. Et si on va aller chercher l'aide naturelle, parce qu'on a, par exemple, une personne adulte qu'on accueille chez soi, bien là, c'est la ligne 462, qui est une espèce de fourre-tout qui s'appelle « Autre crédit », dans laquelle on va aller dire « bien, je veux le crédit pour aide naturelle ». Donc, si on a des choses à dire à notre comptable, là, c'est un peu ça, là, la base. Mais évidemment, si on a fait des dépenses, des choses comme ça dans l'année, gardez toujours vos reçus, c'est super important. Puis amenez-les, puis posez la question, parce qu'il y a des déductions pour les frais de soutien aux personnes handicapées. Il y a toutes sortes d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qui passent en frais médicaux aussi lorsqu'on est une personne handicapée. Donc, mais ça, c'est pas de ce que j'appellerais des crédits gratuits. C'est des crédits pour lesquels il faut avoir dépensé quelque chose. Puis le but du crédit, c'est de venir réduire le coût réel de notre dépense.
Tout à fait.
Donc, dès que vous faites une dépense, vous dites, hey, moi, là, si je n'étais pas handicapé, là, je la ferais pas, cette dépense-là. Ou si mon enfant n'était pas handicapé, je la ferais pas. Gardez toujours les reçus, c'est la base. Puis posez la question directement. Là, ça mérite une analyse au cas par cas.
Okay. Exactement. C'est justement cette nuance-là. Donc, si la situation d'handicap engendre des dépenses pour soi ou pour son enfant handicapé, c'est important à ce moment-là de le mentionner à son conseiller et de garder les reçus. On prend une petite pause et on revient pour parler du REEI. On en parlait un petit peu plus tôt, le guide des mesures fiscales à l'intention des personnes handicapées, produit par l'Office des personnes handicapées du Québec. Il y a une version actualisée maintenant que vous pouvez trouver en ligne et qui est accessible. Donc, ils ont augmenté l'accessibilité. Il peut être lu par un programme vocal ou du moins, c'est plus facile pour les personnes malvoyantes ou sourdes de pouvoir l'utiliser. Donc, on met ça dans son petit coffre à outils. Je continue toujours avec Jonathan Vandal, président directeur général chez Finhandicap Services Fiscaux. On va se pencher pour ce segment-ci de côté planification financière, si on veut, mais qui a tout de même un impact dans la question des impôts. Le programme de régime enregistré épargne invalidité, le REEI, qui est un programme encore méconnu, tant du côté des personnes qui sont admissibles que du côté des institutions financières parfois. Donc, d'abord, décrivons qu'est-ce que le REEI.
Le REEI, c'est un magnifique programme qui permet d'épargner. Non seulement il permet d'épargner, mais en plus, le gouvernement va venir nous aider à épargner. Donc, c'est subventionné. Donc, on va venir y mettre des sommes. Même, on a des clients qui y mettent absolument aucune somme et qui reçoivent de l'argent du gouvernement. Donc ça, c'est sur le principe de base, là, c'est important de comprendre que c'est de l'épargne à long terme. Et là, quand je dis long terme, là, c'est plus de 10 ans et même c'est 20 ans, 30 ans. Donc malheureusement, quelqu'un qui cherche des ressources à court terme, c'est pas vers le REEI qu'il faut se tourner. Par contre, un peu comme notre retraite quand on n'a pas de handicap ou même quand on en a un et qu'il faut prévoir notre retraite, bien, il vaut mieux commencer à prévoir tout de suite parce que c'est le petit train qui va loin. Hein. Finalement, des fois, une petite épargne, ça peut être un simple 20$, un 30$, un 50$ par mois, va amener à permettre d'accumuler des sommes qui pourront servir. Et là, c'est ce qui est bien dans le REEI, c'est que ça peut servir au bien-être très large de la personne. Il n'y a pas d'obligation. Un peu, des fois, on entend parler du REE, du régime enregistré d'épargne études. Il faut aller aux études postsecondaires, des choses comme ça. Il y a des restrictions sur comment utiliser l'argent. Pas dans le REEI. Le bien-être, là, c'est pour la personne. C'est tout.
Justement, quel est l'avantage pour une personne en situation de handicap de choisir d'investir dans le REEI ou d'épargner avec ce modèle-là, sachant que les autres modèles comme le CELI ou le REER conventionnel sont aussi accessibles?
Tout à fait. Écoutez, d'ailleurs, la question est passée dans l'actualité récemment. Pour nous, c'est une question qui va de soi, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, il y a des niveaux, mais quand vous mettez un dollar dans le REI, bien, le gouvernement en ajoute trois. Donc, vous en avez un, vous en avez mis un, puis il y en a quatre le lendemain matin. Bien, c'est dur à battre, même dans un CELI, même dans un REER. Évidemment, il faut se poser la question. Chacun de ces programmes-là, ce sont tous des régimes enregistrés, ont leur raison d'être. Par contre, le REI est tellement fort dû à ses subventions qu'il ne faut pas passer à côté. Donc, si vous vous posez la question parce que vous êtes un travailleur handicapé, est-ce que je dois prendre des REER, mon CELI ou un REI? Bien, la réponse n'est pas blanche ou noire, c'est pas le REI automatiquement, parce qu'un coup que c'est dans le REI, c'est là pour longtemps. On ne peut pas y toucher.
Donc, tout à fait. Comme vous le disiez, c'est vraiment du long terme. C'est un 20 ans. Là.
Par contre, si c'est ça notre objectif, c'est pour notre retraite, parce que nous, on considère qu'on veut à 45 ans prendre notre retraite, puis on a 25 ans, puis on veut prendre une retraite un peu plus jeune que monsieur, madame, tout le monde, pour des raisons de santé, souvent, bien, là, le REI vient le fun parce qu'on peut compléter des programmes existants comme la régie des rentes, peut-être notre régime de pension ou notre propre REER, mais de façon subventionnée. Donc,
En fait, c'est pas non plus, si on choisit un REI, on peut tout de même placer de l'argent dans d'autres programmes. Exactement en conflit.
Puis je vais même aller plus loin que ça. Si l'autre inquiétude, c'est la solidarité sociale, parce que, par exemple, on est prestataire, bien, ça ne coupe pas les prestations, absolument pas. Autant quand lorsqu'on peut y mettre de l'argent, parce qu'un prestataire de la solidarité sociale ne peut pas épargner. Hein? On connaît la règle des avoirs liquides qui nous limite à 2 500 $ en fin de période, mais dans le REI, ça ne compte pas. Donc ça, c'est un point important. Et on ne peut pas prendre des REER non plus là, lorsqu'on est en situation de solidarité sociale. Donc c'est important, le REI, c'est souvent la seule façon d'épargner pour ces prestataires-là, ceux qui sont prestataires à vie ou même de façon temporaire. Bien là, c'est important d'y penser. Et même lors des retraits, bon, sous certaines réserves, là, mais disons que la plupart des retraits pourront être considérés sans impact ou à peu près pas d'impact. Les niveaux sont rendus assez élevés. Ils étaient un peu plus bas à l'origine, mais maintenant, c'est vraiment très bien.
Donc, qui est admissible au REI et comment on peut l'ouvrir, comment on peut y contribuer?
Bien, on a parlé du fameux CIPH en première partie, hein, le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Bien, la grosse notion d'admissibilité, c'est lui. OK, les deux autres, c'est assez simple, c'est d'avoir un numéro d'assurance sociale et d'être résident canadien. Alors, j'ai pas parlé de citoyenneté, j'ai parlé de résidence. OK? Donc, c'est assez facile. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller voir un émetteur inscrit. Donc, oui, il y a les banques, il y a des conseillers indépendants qui peuvent vous permettre d'aider ça. Donc, au niveau d'aller chercher de l'aide, bien là, il faut voir où on peut aller chercher le maximum. La plupart des grandes banques peuvent nous aider, puis des conseillers indépendants comme le cabinet Finhandicap peut aussi vous aider.
Il existe des subventions aussi et des bons. Exactement, qu'est-ce qu'on entend par des bons et des subventions?
J'ai ouvert la porte tantôt. Hein, quand on met un dollar, si notre revenu familial là, est en deçà, donc en bas d'environ 90 000, on va garder des chiffres ronds, on a droit à 3 $ pour chaque dollar pour le premier 500 $. Donc, on met 500, le gouvernement met 1 500. Et si on continue, on va en mettre plus, bon, on met 1 000, un autre 1 000 va nous donner 2 000. Donc, une année typique, là, dans les meilleures conditions, pour 1 500, va nous donner 3 500 de subvention. Et à ça, peuvent s'ajouter, sans même qu'on mette un sou, donc on pourrait ouvrir un REI là, sans même mettre un sou, et si notre revenu est inférieur à environ 26 000, bien, on a un 1 000 qui va là à chaque année automatiquement.
Okay. Donc, pour vraiment que ça soit clair, on peut seulement l'ouvrir d'emblée, tout de suite, avec les papiers nécessaires, même si on considère qu'on n'est pas en situation de pouvoir épargner directement et de mettre de l'argent mensuellement, on peut l'ouvrir et ça va tout de même engranger un certain montant.
Donc, une autre règle pour avoir droit à des subventions, des bons, c'est qu'il faut avoir 49 ans ou moins. OK. C'est rétroactif, tout ça. Donc, le régime a été mis en place en 2008. Donc, en ce moment, on ouvre. Là, on a quand même 2008 à aujourd'hui qui est là, qui est disponible. Donc, on a des comptes qu'on ouvre et la personne, elle ne sait même pas, mais il y a 9 000 qui est déposé. En fait, on est le 29 février. Là, c'est aujourd'hui la vraie journée où l'argent de 2016 est déposé, le 1 000 pour les gens qui y ont droit au bon. Mm-hmm. Et on peut aller chercher des vieilles subventions aussi. Donc, on a dit 3 500 pour une année de données. Mais dites-vous qu'à vie, là, le gouvernement, là, ce 3 500-là, il y en a 20 fois pour vous. Il y en a pour 70 000 $ disponibles. Et la même chose dans le bon, il y en a pour 20 fois disponibles pour vous. Donc, le 1 000 $ il y en a 20 000 disponibles à vie pour une personne qui est admissible.
Donc, on parle quand même de montants importants qui s'ajoutent à, aux sommes que nous, on met nous-mêmes dans le REE.
La subvention vient bonifier une cotisation, donc de l'argent qu'on y met. Tandis que le bon, là, même si on n'a pas un sou à mettre, il faut ouvrir, il faut au moins aller chercher ce 1 000 $-là. C'est important. C'est quand même des sommes qui sont là, disponibles. Il faut aller les chercher.
Il faut aller les chercher. Comment fonctionnent les retraits? On parle, entre autres, que c'est justement un investissement à long terme. Il arrive un moment où on en a besoin pour différentes raisons. Comment ça fonctionne, ces retraits-là?
Bon, l'image qu'on a souvent, qui est erronée, c'est que c'est 60 ans ou plus tard. OK? C'est faux. Évidemment, il y a une notion, lorsqu'on reçoit une subvention, il faut qu'elle reste là au moins 10 ans dans le compte. OK? Mais avec un planificateur, et même là, on pourrait avoir à la rembourser, c'est peut-être pas une chose négative. Là, on commence à parler de planification financière un peu plus complexe. C'est là qu'on devrait aller consulter. Si on a des inquiétudes à ce niveau-là, aller consulter. Mais le principe de base, là, c'est qu'on va accumuler de l'argent, on va attendre 10 ans, puis on va sortir de l'argent. Ça, c'est comme ça qu'on devrait voir le REI. Et bon, si on commence avec un jeune enfant de 2 ans, bien, c'est pas vrai que c'est à 60 ans qu'on va sortir de l'argent. Ça peut être avant. OK, donc si notre projet, notre rêve, c'est de sortir de l'argent avant, bien, parlez-en à votre conseiller, puis il va établir un plan avec vous.
Justement, mais est-ce qu'il y a des impacts qu'on le retire déjà des sommes avant 60 ans versus après 60 ans, ou
c'est dépend vraiment de quand on va avoir reçu des subventions et tout ça. Donc là, c'est vraiment des plans. Il y a des raisons aussi d'ouvrir le compte simplement pour éventuellement faire une planification successorale, donc de transférer des sommes des parents vers le REI, de leur REA. Il y a ce qu'on appelle un roulement, là, donc sans payer d'impôts. Il y a toutes sortes de choses qui se font.
De l'inclure donc, dans une fiducie testamentaire à ce moment-là.
Ça, c'est autre chose, mais c'est de faire des choix entre une fiducie testamentaire, des choses comme ça. Et donc, là, il faut faire des choix qui vont permettre de faire le mieux avec l'argent qu'on a. Et il ne faut pas se dire que parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas accès à des services comme ça. Au contraire, là, notamment chez Financicap, une bonne partie de notre clientèle est prestataire de la solidarité sociale. Donc, des fois, on a l'image qu'un conseiller financier, c'est pour les gens riches qui ont des centaines de milliers de dollars, tout ça, c'est absolument faux et il faut essayer de planifier. En fait, moi, je pense que c'est le contraire. Si on en a moins, bien, c'est là qu'il faut, on peut absolument pas le gaspiller, puis il faut faire le mieux possible avec ça. Donc, c'est le message que je veux lancer. Il faut pas s'inquiéter, il faut y aller.
Justement, Jonathan Vandal, il nous reste quelques secondes. Si on veut consulter les services de Financicap, où est-ce qu'on peut vous rejoindre?
Financicap.com. On peut aller aussi sur le Facebook de Financicap, c'est les meilleures façons, sinon le 514-504-7334.
Merci beaucoup, Jonathan Vandal. Vous êtes président, directeur général chez Financicap Services Fiscaux. Merci d'avoir mis un peu de lumière du côté de tous ces programmes d'investissement, d'épargne et d'impôts aujourd'hui. On continue après l'émission, après la pause, avec la chronique Altergo. Merci.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
Toujours à Ça vaut le détour, je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le mot-clic CVLD. Deux journées d'initiation au sport adapté pour les jeunes ayant une limitation fonctionnelle auront lieu dans la région d'Abitibi-Témiscamingue au début du mois de mars. Ce sont les camps des recrues Hydro-Québec dans le cadre du programme Choisir de gagner. Pour nous en parler davantage, j'ai en studio Mme Elsa Lavigne, directrice du projet Choisir de gagner. Bonjour Mme Lavigne.
Bonjour.
Donc, c'est un programme Choisir de gagner. On va revenir un peu sur les objectifs d'abord. C'est un projet du défi sportif Altergo qui est soutenu par Québec en forme.
Exactement. Donc, c'est un projet qui vise à sensibiliser les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle à l'adoption de saines habitudes de vie. Donc, on essaye d'agir autant sur les jeunes en tant que tels, donc en leur montrant des façons d'être actifs au quotidien et de mieux s'alimenter, mais aussi auprès des intervenants et de l'environnement, donc tout ce qui est accessibilité universelle puis transmission d'outils.
Et donc, ça fait combien de temps que ce programme existe et que vous rencontrez des jeunes? Ça se fait dans les milieux scolaires, peut-être les milieux communautaires aussi?
C'est ça, c'est la cinquième année. En fait, ça se fait dans différents types de milieux. Donc, on essaye d'agir partout où sont les jeunes. Donc, c'est autant dans les écoles spécialisées que régulières avec des groupes spécialisés ou des élèves qui sont inclus que dans des centres communautaires ou dans différents environnements avec les clubs sportifs ou même les municipalités.
Et donc, on parle cinquième année d'existence. C'est super comme programme. On parle de ces camps des recrues Hydro-Québec. En quoi est-ce qu'ils consistent exactement?
En fait, c'est un projet qu'on a depuis l'année dernière. On allait avant essentiellement directement voir les jeunes dans les écoles ou voir les intervenants avec les commissions scolaires. Et on s'est rendu compte que des fois, c'est pas les seules clés qu'il faut tourner. Là, il y en a d'autres à tourner. Donc, on a décidé d'essayer de mettre tout ce monde-là dans un même endroit. Donc, on réserve un centre sportif. On invite les jeunes pour qu'ils viennent essayer des sports. On invite les intervenants pour qu'ils viennent découvrir des sports. On leur diffuse des outils. On invite aussi les organisations sportives traditionnelles qui ne connaissent pas forcément les adaptations qui sont nécessaires pour inclure ces jeunes. Et on invite aussi la population. Donc le but, c'est de créer un rapprochement entre tous ces intervenants-là, de faire du recrutement pour les clubs en région. Parce que les camps des recrues Hydro-Québec, c'est un projet qu'on fait en région éloignée surtout. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait assez peu d'opportunités d'être actifs pour différentes raisons, beaucoup de contraintes. Donc, c'est de stimuler un petit peu ce milieu-là pour offrir des activités qui soient adéquates et adaptées à ces jeunes.
Justement, on parle de régions éloignées. Quels sont les obstacles auxquels font face les jeunes qui vivent avec des limitations fonctionnelles pour pratiquer le sport?
Alors, les obstacles sont multiples. Ils sont essentiellement liés au territoire. Donc, quand on parle de régions, là, on s'en va essentiellement en Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay. Donc, le territoire est grand. La densité de population est faible, donc ça implique beaucoup de déplacements, les distances sont grandes, donc des coûts de transport importants, de l'inclusion dans les écoles qui n'est pas forcément faite comme dans les grands centres. Comme à Montréal, on a beaucoup de ressources, on a beaucoup de classes spécialisées, d'écoles spécialisées. Mmh. En région, c'est plus délicat, donc des fois, les jeunes sont intégrés dans une classe régulière. Les enseignants en éducation physique ne sont pas nécessairement formés pour les accueillir. Donc, ils ont moins d'outils à leur disposition. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de réduire ces contraintes. C'est pas forcément facile, mais au moins, on essaye de leur montrer, avec les organismes sportifs locaux, qu'est-ce qui existe pour eux dans la région.
Justement, l'objectif est aussi d'outiller, donc de faire découvrir certains sports aux jeunes, mais aussi d'outiller les professionnels, les intervenants qui travaillent avec ces jeunes pour finalement à développer des activités sportives plus inclusives.
Exactement. Parce que ce qu'on remarque, c'est que par exemple, une des contraintes liées au territoire fait que les sports d'équipe sont difficiles. Or, ce que les gens ne savent pas, c'est que les sports inclusifs sont inclusifs. Donc, on peut y jouer avec ou sans limitation. Un des bons exemples, c'est que justement, en Abitibi, il y a un club de hockey luge qui s'est formé. Il y a une seule personne qui est handicapée dans ce club. C'est quelqu'un qui a eu un accident d'auto, il jouait au hockey avec ses amis, et puis là, il ne pouvait plus jouer au hockey debout. Donc, il a pris connaissance un peu du hockey luge, il s'y est fait, et ses amis se sont dit, on ne va pas le laisser tomber, puis ils se sont tous mis au hockey luge. Donc, c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire comprendre aux gens, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une limitation pour faire du sport inclusif, je veux dire. Mm-hmm. On peut utiliser toutes sortes de stratégies, puis si les clubs sportifs traditionnels se sensibilisent un petit peu à ces possibilités-là, on espère que plus de jeunes seront capables de faire du sport en région.
Justement, on parle de jeunes, ils ont quel âge, à quel niveau est-ce que vous vous adressez principalement?
Nous, on s'adresse à peu près de 6 à 21 ans, je vous dirais. Mais on n'est pas fermé là. C'est parce que comme on est subventionné par Québec en forme, le projet Choisir de gagner, c'est essentiellement les jeunes qu'on cherche à recruter. Mm-hmm. Mais bien sûr, les jeunes et les moins jeunes sont tous bienvenus, là. La population en général aussi.
Justement, donc vous apportez des pistes de solutions pour qu'ils puissent développer et continuer la pratique d'un sport adapté. On parle de contraintes, entre autres de déplacement. Bon, c'est un peu difficile d'avoir un contrôle là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez apporter d'autre peut-être pour l'accessibilité des lieux? Peut-être on peut penser à ça?
Ben justement, ces événements-là sont une bonne façon de sensibiliser la population à ces contraintes d'accessibilité. Donc, comme on fait ça dans des centres sportifs qui sont accessibles, on va pouvoir remarquer qu'ils ne le sont pas forcément totalement. Mm-hmm. Les personnes qui ont une limitation doivent généralement rentrer par une porte qui est différente de la porte d'entrée principale. Donc, on essaye de sensibiliser à ce sujet. Et pour ces événements, en fait, l'un d'entre eux, qui est au Saguenay, est organisé en collaboration avec le comité organisateur des Jeux du Québec. Donc ça va se faire dans le cadre de l'événement Mes premiers Jeux. Et on travaille en collaboration avec le comité organisateur à Montréal pour essayer justement d'initier des pratiques différentes dans les choix des lieux, dans les choix des hébergements, et puis d'intégrer un petit peu cette notion d'accessibilité universelle dans toute l'organisation de l'événement. Donc c'est un peu ça qu'on va faire en région aussi. On a des outils à disposition, comme on a un guide d'accessibilité des événements dont on va essayer de faire la promotion, en fait, pour montrer quels sont les moyens pour y arriver.
Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un travail en amont aussi. Et pour que, finalement, chaque intervenant, chaque lieu sportif soit en mesure, de manière autonome, d'offrir les plus grands, de meilleurs services ou des activités qui sont plus inclusives.
Exactement.
On parle de ces journées qui s'en viennent au mois de mars. Il y a d'abord Val-d'Or le 6 mars, Rouyn-Noranda le 7 mars. Il y aura le Saguenay, je crois, à Jonquière le 18 mars.
19 mars.
J'étais tout près. Qu'est-ce qu'on va voir lors de ces trois journées au mois de mars?
Donc, ces journées, en fait, sont l'occasion pour nous. Donc, on fait ça en collaboration avec les organismes locaux, donc l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées, qui est généralement un programme de l'unité régionale de loisirs et de sport de la région. Donc, à Val-d'Or, le 6 mars, en fait, ça va se passer à la polyvalente Le Carrefour de 13h à 16h30. On pourra essayer le goalball avec l'équipe de goalball locale, le basketball en fauteuil roulant, le hockey luge. Donc ça, c'est les sports qui seront à l'essai. Et sinon, il va y avoir des kiosques d'information. Donc il y a quelqu'un qui va amener un vélo à main pour montrer. Ça, c'est un sport qu'on peut faire à peu près partout. C'est sûr que le matériel est un peu cher, mais c'est généralement les routes sont assez bien faites. Le ski alpin adapté aussi, quelqu'un va venir nous parler un peu des programmes dans la région. Il y aura aussi des kiosques sur le goalball qu'on pourra essayer, mais dont on pourra prendre des informations par la suite. Le hockey luge, puis un kiosque de l'Organisation régionale de loisirs pour personnes handicapées et un kiosque sur le défi sportif Altergo.
Bien sûr, le défi sportif qui s'en vient
prochaines semaines, du 25 avril au 1er mai.
Est-ce que ce seront les mêmes sports qui seront en démonstration aussi à Rouyn-Noranda?
Pas exactement, il y a des petites nuances. Nous, on essaye en fait de faire essayer des sports qui sont déjà disponibles dans la région. Mm-hmm. Le basketball en fauteuil roulant est une exception, mais on veut vraiment faire le lien pour le recrutement pour les clubs. Donc à Rouyn, on va également avoir le goalball, mais on aura surtout du basketball OSQ, donc Olympiques spéciaux du Québec. C'est pour les jeunes qui ont une déficience intellectuelle. Ils sont en train d'essayer de monter un programme dans la région. Donc on veut justement essayer de faire le lien avec le plus de jeunes possible. Il y aura aussi le boccia, puisqu'un centre de jour pratique le boccia, et le hockey luge. Puis pour ce qui est des kiosques, ce sera à peu près la même chose qu'à Val-d'Or. Donc tout ça va se dérouler le 7 mars à Rouyn-Noranda, et ça aura lieu également de 13h à 16h30 au complexe d'Youville.
Et en ce qui a trait au Saguenay, est-ce que vous faites aussi appel à des équipes locales qui pratiquent déjà certains sports adaptés?
Au Saguenay, ça va être un petit peu différent parce qu'on l'organise dans le cadre d'un événement déjà existant. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de faire le maximum le lien avec les clubs locaux. Mais j'ai pas exactement la programmation sous les yeux là puisque c'est un petit peu plus tard, donc on l'a pas défini exactement. Mais l'objectif était que le boccia est un sport qui existe aux Jeux du Québec. En fait, c'est le seul sport inclusif. Mm-hmm. Donc, on voulait vraiment mettre l'accent là-dessus pour faire le lien, pour que les jeunes puissent aller participer aux Jeux du Québec. Donc, il y aura un plateau sportif qui sera destiné essentiellement au boccia. Et nous, on occupera un autre plateau où on fera des démonstrations d'autres sports, dont par exemple le curling en fauteuil roulant également.
Très intéressant. Tous ces sports, on voit qu'il y a vraiment une variété aussi sportive qui est accessible dans différentes régions. Madame Lavigne, en terminant, si on veut participer ou si on veut se présenter à ces ateliers, est-ce qu'il faut s'inscrire d'avance ou on peut seulement se présenter la journée même?
On peut se présenter la journée même. Nous, le but du jeu, c'est vraiment que le plus de gens puissent participer. Donc, les inscriptions auraient réduit un petit peu le potentiel de participants. Donc, on se présente, on nous explique à l'entrée quels seront les sports à l'essai. Et puis, on y va comme ça, tout bonnement.
Tout bonnement, c'est si facile, ça semble si facile. En terminant, si on veut avoir plus d'informations sur le projet Choisir de gagner, voir peut-être qu'est-ce qu'il y est disponible dans notre région. Là, on a parlé, on a mis plus l'accent sur l'Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay pour cet événement spécial avec les Jeux du Québec. Si on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans notre région,
choisirdegagner.com. On a sur notre page d'accueil un petit carré à droite où vous verrez les événements à venir. Par le projet Choisir de gagner, puis aussi défisportif.com pour toutes les informations sur le défi sportif qui s'en vient.
Merci beaucoup, Elsa Lavigne. Vous êtes directrice du projet Choisir de gagner en collaboration avec, en fait, un projet chapeauté par Altergo en collaboration avec Québec en forme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Une minute après l'autre, chaque jour reste le nôtre, une heure après l'autre. Chaque jour reste le nôtre, un pied devant l'autre. Chaque jour reste le nôtre. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. On ne voit que le vide, on se voit tout en pleurs. Un peu de hauteur, un peu de douceur. On ne voit plus le cœur, on le sait voyageur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. Une minute après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Une heure après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Un pied devant l'autre, chaque jour reste le nôtre. On est tout essoufflé, on se fait tous un peu peur. Un peu bafouilleur, un peu bagarreur. La proximité nous fait un petit peu peur. On n'y voit plus rien, on ne voit que la fin. Et oui, tout disparu, ce petit air de rien. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. On a tout effacé, ne reste que les erreurs. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. Une minute après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Une heure après l'autre, chaque jour reste le nôtre. Un pied devant l'autre, chaque jour reste le nôtre. Reste le nôtre, c'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. On ne voit que le vide, on se voit tout en pleurs. Un peu de hauteur, un peu de douceur. On ne voit plus le cœur, on le sait voyageur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. C'est vrai, la distance nous fait un petit peu peur. Un peu de hauteur, un peu de grandeur. Chaque jour reste le nôtre. Une heure après l'autre. Chaque jour reste le nôtre. Un pied devant l'autre. Chaque jour reste le nôtre. Une heure.
Louise Attaque, avec sa pièce « Chaque jour reste le nôtre », tirée de son album « Anomalie ». On en parlait en début d'émission. La Maison Gilles Carle de Brome-Missisquoi est née de l'association entre la Fondation Maison Gilles Carle et le regroupement soutien aux aidants Brome-Missisquoi. C'est un des 5 points de service du regroupement en Estrie. Pour connaître davantage leur offre de service, je joins au téléphone Mme Verle Bergeard, directrice générale. Bonjour, Mme Bergeard.
Bonjour, Madame. Vous allez bien?
Oui, merci. Et vous?
Oui, merci.
Donc, on va faire une histoire courte. Depuis quand le regroupement soutien aux aidants de Brome-Missisquoi existe-t-il?
Depuis 1996.
Ça fait 20 ans, donc vous êtes dans la 20e année d'activité. Pouvez-vous nous décrire la mission et les services que vous offrez?
Oui, alors on prévient l'épuisement chez les proches aidants et on offre de la formation, de la relation d'aide, des suivis psychosociaux et du répit à nos aidants sous différents programmes de répit.
Justement, ce soutien, il se manifeste de quelle manière?
En fait, on a des membres qui sont des membres aidants, qui sont sur le territoire de Brown-Missisquoi, et ils peuvent devenir membres pour 10 $ par année, et ils ont accès à tous les services. Alors, les services sont dispensés ici à la Maison Gilles-Carle et dans 4 autres points de service, soit Lac-Brome, Farnham, Bedford et Sutton, pour offrir de la proximité aux gens sur un très grand territoire en Estrie.
Mm-hmm. Comment est-ce que la Maison Gilles-Carle est venue s'insérer dans votre offre de service?
Ben, en fait, moi, je suis arrivée en 2009 au RSABM, le Regroupement soutien aux aidants Brown-Missisquoi, et il y avait moi et une intervenante qui était là à temps partiel et j'avais un rêve d'une maison de répit. Et ça faisait quand même un petit bout là, dans mon ancien emploi sur Montréal avec les femmes itinérantes que j'admirais là, le travail de Mme Sainte-Marie. Alors, quand je suis arrivée ici, j'avais un rêve d'une maison de répit. Je l'ai approchée, elle est devenue ma porte-parole. Et notre rêve, son rêve, parce que vous savez que la maison à Saint-Paul, qu'elle avait avec Gilles, elle était en train de créer une maison de partage qui s'appelait la Maison Gilles-Carle à Saint-Paul-d'Apotchurde et qui a été dissoute là, suite à son association avec moi. Et évidemment, avec le décès de Gilles-Carle, là, elle n'a pas poursuivi ce projet-là à Saint-Paul. Entre autres, elle s'est associée à nous, puis on partage maintenant sa voix des aidants au Québec et notre expertise au niveau des proches aidants sous un même toit là, qui s'appelle la Maison Gilles-Carle Brown-Missisquoi.
Justement, on parle de d'une belle, finalement, d'un beau partenariat qui a donné lieu à une maison de répit. Quels sont les besoins qui sont manifestés par vos membres?
Les besoins, là, il y a beaucoup de besoins en répit, évidemment, en relation d'aide, en écoute, en soutien, accompagnement, suivi psychosociaux, en formation. Ça varie là-dedans. C'est vraiment des services qui sont polyvalents et puis les aidants ont du choix. On a d'autres services aussi comme des petits moments de détente offerts par une équipe de bénévoles spécialisés qui offre des massages, réflexologie et toutes sortes de moments de détente aussi. Fait que c'est très, très varié comme service et les gens viennent chercher à la Maison Gilles-Carle ce qu'ils ont le plus de besoin et des fois l'aidant va combiner aussi répit et petits moments de détente ou relations d'aide et un peu de répit ou ça varie beaucoup là, chez l'aidant. L'important, c'est d'avoir une offre diversifiée pour aller chercher le plus d'aidants possible et de les soulager là, parce que leur quotidien est très lourd.
Mm-hmm. Donc, on prête vraiment attention à la situation de vos membres pour leur donner finalement des ateliers ou du soutien qui soit personnalisé.
C'est ça, très personnalisé, très humaniste ici.
Et qui est éligible, donc, si on parle des séjours de répit, qui peut être éligible?
Tous nos membres ici qui sont actifs peuvent avoir accès parce que le membership est d'une assemblée générale à une autre d'année en année.
Mm-hmm.
Et tous les membres qui ont adhéré pendant l'année fiscale peuvent séjourner ici là, avec leur aidé ou sans leur aidé.
Oui, justement, parce qu'il existe différentes formules. Oui, c'est ça, il existe trois formules de répit-hébergement.
Oui, c'est ça. En fait, il y a les haltes répit qui sont en un partenariat avec nous et le réseau, là, le C3S, qui est maintenant le CUSSS de l'Estrie.
Mm-hmm.
Et puis, ces haltes répit-là sont offerts généreusement par eux. Et puis ça, c'est deux demi-journées qui viennent ici les aider. Alors, pas l'aidant, juste l'aider qui vient ici et est entrepris pour des activités structurantes en après-midi, les mardis, vendredis. Ça, c'est un programme de répit en partenariat avec le CUSSS.
Mm-hmm.
Ensuite de ça, on a les séjours de répit qui comprennent le répit de jour du mardi au vendredi et le répit en dodo, le 24, 48 à une semaine, deux semaines de répit, dépendant du calendrier de répit. Et ça, c'est l'aidant qui peut venir avec l'aidé ou l'aidé toute seule ou l'aidant toute seule. Et ces calendriers-là sont montés là aux 6 mois dans le journal L'Entraidant. Fait que les gens, les aidants peuvent prévoir d'avance là, des vacances ou des séjours parce qu'évidemment, ils ont plusieurs séjours par année ou plusieurs journées de répit en journée par année. Mm-hmm. Alors, ils peuvent varier leur séjour selon leurs besoins. Et... Alors ça, c'est le répit de jour et les dodos. Il y a aussi le ROMAN, qui est le regroupement d'organismes montérégiens d'aidants naturels, qui est un de nos bailleurs de fonds, mm-hmm. qui nous offre la possibilité d'avoir une chambre aidant-aidé. Alors, ils subventionnent ça. Les gens ils peuvent venir en séjour ROMAN et ils peuvent aussi faire des dîners, des soupers et des événements thématiques ROMAN. Alors, tout se fait en diade et ça, c'est complètement gratuit.
Et justement, lorsque c'est les séjours aidants-aidés, est-ce qu'il y a un soutien technique qui est offert
pour que ça fasse la nourriture, les soins d'hygiène en tout temps, que ce soit le répit de jour, les dodos au calendrier qui est payant ou les activités que je vous ai nommées du roman. Mm-hmm. Ce sont tous des activités, des séjours incluant activités structurantes, soins d'hygiène, nourriture, collation, ça comprend tout ça.
Donc, vous remplacez temporairement, finalement, l'aidant naturel.
C'est ça, temporairement. Puis si temporairement. Au début, il veut venir l'aidant avec l'aidé, c'est accepté aussi là, dans le programme Roman, qui est complètement gratuit. Mm-hmm. Je dis souvent à mon équipe qu'on est le Club Med des aidants. Alors, c'est une très belle maison qui est très confortable et qui avec tous les services qu'on offre, entreprend autant l'aidant que l'aidé et qui joint le tout à l'amiable là, dans une atmosphère de détente, un lieu en ville, mais qui est quand même dans la nature. Alors, c'est bon pour tout le monde. Là. C'est une ressource qui est, je crois, de plus en plus respectée dans la région.
Mm-hmm. C'est le Club Med pour les aidants naturels. C'est vraiment une très belle image, Madame Belgeant.
Oui, oui.
C'est très évocateur.
Oui, c'est ce que notre équipe perçoit et ce qu'on met en place aussi.
Et on a parlé donc des répits, des séjours de répit sur place à la Maison Gilles-Carle. Vous offrez aussi des répits à domicile.
Oui, on a aussi une équipe de bénévoles spécialisés qui est autre que les bénévoles soit de la Maison Gilles-Carle ou des petits moments de détente qui se déplacent à domicile pour offrir du répit à domicile. Alors, pendant que l'aidant quitte la maison, le bénévole est formé, entraîné pour prendre soin de l'aider. Et ça, c'est un bénévolat qui est très, très généreux et très apprécié à la Maison Gilles-Carle. Et l'aidant attend souvent ce bénévole-là 3 heures par semaine pour justement être capable de se libérer. La question de juste même, on sait, hein, une coiffeuse et des courses, là, c'est vite fait en 3 heures.
Tout à fait, tout à fait. Donc, vous offrez vraiment une gamme de services qui est très appréciée. Quel bagage ont vos bénévoles et vos intervenants sur place?
Des professionnels gradués avec des différents bagages là, de compétences professionnelles. Alors, nous, on est chanceux d'avoir le choix. On exige des diplômes universitaires, alors que ce soit des intervenants psychosociaux, des travailleurs sociaux, psychologues, infirmières sociales, auxiliaires familiales et sociales. Au niveau de l'administration, c'est des gens gradués en communication, en relations d'aide. Moi-même qui a divers diplômes universitaires dans tous les champs. Alors, on a cette chance-là là, de pouvoir compter là, sur une équipe qui est excessivement dévouée, madame, qui ont tous caractère très vocationnel. On s'entend dans le communautaire, on travaille beaucoup pour la vocation puis l'humanisme. Mm-hmm. Et je suis excessivement choyée là, de l'équipe et de la réputation et des services de qualité qu'on offre à la population aidante.
Oui, bien, on voit justement que le côté humain est vraiment au centre de vos préoccupations. Est-ce qu'on est capable de dresser un portrait de vos membres? Combien il y a de membres qui sont inscrits?
80% sont des femmes.
C'est déjà très important comme données.
Oui. Et de plus en plus, dans les 6 dernières années, je vous dirais qu'on a de plus en plus d'hommes. Mais je vous dirais que on aura peut-être atteint le 75-25, mais je pense qu'on est plus autour du 80-20 en ce moment. Mais il faudrait que je vérifie la statistique, là, mais...
Combien est-ce que vous regroupez de membres?
On a, je pense, 198 membres en ce moment, si je ne me trompe pas, là. Ça fluctue beaucoup, là, dépendant des années. Bien, beaucoup. Je pense que... Avec les années, ça l'augmente aussi à cause du vieillissement de la population, mais je pense qu'on était dans les 40, après ça, les 80, 120, 160, on est rendu à tout près de 200, là.
C'est aussi le signe qu'il y a un besoin.
Oui, tout à fait, madame, tout à fait. Que le réseau public et les hôpitaux, évidemment, ne peuvent pas tout assumer la responsabilité.
Justement, c'est à ce moment-là que vous intervenez.
Oui, bien, à ce moment-là, on est partenaires hein, dans le réseau de la santé, tout le monde ensemble. Et puis, la ressource, elle est maintenant, après 3 ans, presque 4 ans, très bien connue. Et je crois que c'est pour ça aussi que le nombre de membres augmente, là. C'est quand même des services de qualité, là, très personnalisés et dans une approche humaniste.
En terminant, Mme Bellegarde, très rapidement, si on souhaite devenir membre ou pour avoir plus d'informations, comment on vous rejoint?
Pour devenir membre, évidemment, il faut faire partie du territoire de Brome-Missisquoi. Mm-hmm. Alors, c'est les 22 villes de Brome-Missisquoi, de la MRC ici, ou en contactant le 450-263-4236, ou en simplement voir notre site web www.rsabm.ca. pour les premières lettres du regroupement soutien aux aidants Brome-Missisquoi.
Merci beaucoup, Mme Bellegarde, directrice générale. Merci de nous avoir accordé cette entrevue.
Ça nous fait plaisir.
C'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui. Je remercie tous mes invités que j'ai reçus et évidemment mon équipe technique à la recherche aux médias sociaux, Christiane Campagna, mise en nom de Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.